kann sie den Jan verbieten, eine verdammte Mörderlied zu singen. Den ganzen Tag holt sie den in der Ohren. Als ob man nicht schon genug vor dem Mörder zu Jan kriegt.
Na, solange man sie singen hört, dann weiß man nicht, was er noch da sind.
Naja, hast du wieder recht.
Du hast aber einen schönen Wald. Wie heißt du denn?
Else Beckmann.
Spannend, aufregend, sensationell.
Naja. Oh, ein Blick, Herr Gerke. Sagen Sie mal, Herr Gerke.
Ja?
Haben Sie Elsa hier nicht gesehen?
Nee. Ist sie nicht gerade von mir die Treppe raufgelaufen?
Nee. Sie ist noch nicht zu Hause.
Na, dann wird sie wohl bald kommen. Auf Wiedersehen, Frau Beckmann.
Auf Wiedersehen, Herr Gerke.
Thank you.
Voilà.
Donc, c'est un vieux film au niveau chronologique, mais c'est un jeune film au niveau de sa poésie et de son langage. Et chaque film a toujours trois lieux et trois dates. Le lieu et la date du vampire de Düsseldorf qui a donné naissance à ce scénario et à ce film, c'est 1929, 1928, 1930, puisque le film est fait, il n'a toujours pas arrêté le meurtrier du fait divers qui lui correspond. Il y a le lieu et la date de tournage, Berlin, 1929, si je me souviens bien, et le lieu de diffusion, Fémis, 2011. Bien que ce soit la énième diffusion, j'imagine, pour tout le monde. Donc il y a une interférence toujours entre les trois lieux et les trois dates qui font qu'on ressaisit différemment le film qu'en 1931 à Paris ou en 1930 à Berlin, c'est sûr. C'est pas ça le problème. Le problème ou la question qui se pose ici, c'est l'incroyable invention du récit. Enfin, comment en 6 minutes et demie, on a une histoire complète qui s'amorce avec le meurtrier, le psychopathe à répétition. Tout est déjà en place comme un embrayage fictionnel parfait. Donc, on peut avoir une mémoire donc à plusieurs échelles de temps. On va dire qu'ici on va être dans une première séquence et que cette séquence a plusieurs lieux. Donc il va falloir mémoriser la rue et mémoriser la maison de la mère. Donc ça fait déjà deux lieux qui courent sur la séquence, plusieurs personnages à mémoriser, et puis il y a toute la fluidité des plans et des enchaînements. Parce qu'en fait, c'est bourré d'ellipses, vous l'avez certainement vu. Et donc on va essayer de regarder ça en détail et se poser des questions sur la pensée en images, parce que c'est un peu l'objectif, hein. Essayer de mettre des mots sur les processus qui fonctionnent ici. Donc, est-ce qu'on peut éteindre ? Voilà, merci. Alors, cette fois-ci, non, c'est pas ça. Là, il y a déjà beaucoup de choses qui fonctionnent dans la pensée en image. Le fait qu'il y ait une séparation des tons, une main qui glisse dans l'abîme ou qui appelle au secours, chacun y projette ce qu'il veut, un contre-jour violent sur le M caché dans la main, et il y a tout un tragique là qui est déjà préparé par la graphique même du générique, et puis le titre qui ouvre sur un espace précis dans sa dénomination et complètement hypothétique dans son contenu. Donc voilà. On est là déjà en train de dire c'est un film de Fritz Lang, il y a tel et tel acteur, et le titre c'est M le maudit. Donc on a déjà un contexte opérant dès le premier plan, et on est dans l'attente. Une dramatisation. Le gong, comme au théâtre, dit ça y est, c'est le maudit. Qu'est-ce qu'il y a sur le fondu à l'ouverture qui rappelle les lanternes magiques du 19e siècle, puisque les fondus, ça vient de là, le procédé ponctuatif de la lanterne magique. Donc là, on a une ouverture avec une vue en perspective cavalière, en légère plongée. La plongée, ça permet de voir les visages tout en voyant le cercle qui a été déjà brisé. Donc le point de vue à 45 degrés, C'est bien pour montrer que le meurtrier frappe au hasard, n'importe où, comme la comptine semble nous l'indiquer. Et le texte nous dit des choses tout à fait doubles. Il nous dit d'abord l'innocence des enfants qui jouent sur ce fantasme du méchant tueur, et en même temps la réalité que nous a dit le titre. Donc il y a une double lecture. On ne peut pas prendre ça au premier degré, donc en fait, il y a à la fois l'innocence de l'enfance et le danger qui pèse sur eux, qui est déjà préparé en termes d'inférence et d'affordance. C'est-à-dire inférence, le jeu, et surtout d'inférence, le texte. Alors, il faut que je dise un mot sur le texte. On croit que la pensée verbale, c'est du verbe. Pas du tout. La pensée verbale, c'est de la pensée en image essentiellement. Je vous m'explique. Moi, ma sœur, elle est infirmière. J'ai besoin d'un contexte pour savoir qui est moi, ma sœur, elle est infirmière. À qui je parle? À qui je dis ça? Votre ballon est sous la table. Alors, votre ballon est sous la table, ça veut dire que j'ai un contexte. Je suis dans la cour d'une école, le ballon est entré. Et depuis l'endroit où sont ces jeunes gens, ils ne voient pas qu'il est sous la table. Moi, je le vois, ça m'agace ou ça ne m'agace pas. Donc, il y a le corps qui parle, il y a le texte qui parle, il y a le contexte, il y a le geste vocal. Arrêtez cette maudite chanson! Et le geste vocal compte largement autant que le texte. Et le geste vocal, c'est du corps, ce n'est pas de la linguistique. Donc, vous avez dans une phrase parlée un contexte qui donne sens, donc c'est le contexte apporté par le montage, précisément, et la mise en scène. Vous avez tous les sous-entendus qui sont sous la phrase « Votre ballon est sous la table, moi, ma sœur, elle est infirmière, sandwich au jambon est parti sans payer. » Le sandwich au jambon est parti sans payer. Si je suis serveur dans un bar et que je m'approche de la caissière avec mon plateau en disant « Le sandwich au jambon est parti sans payer », pensez bien, pas question que ce soit moi qui paye à sa place, sous-entendu. Mais parce que j'ai le contexte, mais si je mets ça sur du papier, c'est-à-dire la phrase toute nue, un texte à l'état pur, le sandwich au jambon est parti sans payer. Mais qui se fout qu'elle ça? Et ça veut dire que le sandwich au jambon, je ne le connais pas, donc je l'appelle parce qu'il a consommé. Est parti sans payer, ça veut dire que si je prends l'information, c'est pour dire attention. Moi, ça me gêne qu'il soit parti sans payer, parce que la caisse, etc., etc. Donc, vous voyez que même n'importe quelle phrase va être souvent prise dans un contexte, prise dans un geste vocal, prise dans des sous-entendus, et prise dans un geste vocal. Bien entendu, je ne vais pas quand même jusqu'à dire que le texte n'a aucune importance. Je n'irai pas jusque-là, puisque le texte fonctionne, et d'ailleurs... est tellement bien, puisque les dialogues sont très écrits parfois. Mais on va dire qu'il est encapsulé dans la pensée en image. Il n'est pas autonome. Il n'a pas d'autonomie véritablement textuelle, comme sur la page blanche d'un livre. Il est enraciné dans le corps, dans le contexte du montage, et dans un geste vocal, comme on va le voir à l'instant. Parce que c'est une digression un peu longue, mais... je voulais dire que le verbe, finalement, c'est aussi un peu d'image.
Le futur,
mais c'est le double sens de ce jeu. Ça peut très bien être vrai, mais elles ne le savent pas. Et là, on a compris que c'est une métaphore qui fonctionne avec le titre et que ça pourrait bien leur arriver. Mais pour autant, on n'a pas besoin de se le dire. C'est du ressenti. C'est du ressenti parce que ça a été pensé au niveau de la mise en scène et du jeu et que ça a été pensé au montage. Voilà. Donc là, on sort parce qu'il y avait déjà en haut à gauche de quoi sortir parce qu'il y avait deux petits personnages qui touchaient le bord cadre et qui formaient donc une... Bon, on est attrapé par ça vers le haut, en oblique. Où est-on? Dans la cour d'un immeuble très modeste. Où va-t-on? Il y a du linge qui sèche. Vous voyez les affordances des pinces à linge. Il y a encore de la place pour en mettre. Donc si par hasard, c'est un peu une préparation du personnage de Beckmann, Madame Beckmann, qui est lingère à domicile. Le spectateur s'étonne. Pourquoi tant de colère? parce que justement, ça va se relier directement au titre. L'idée du tueur qui rôde, et l'idée d'une malédiction qui pèse, et l'idée aussi de ces enfants qui viennent de décrire finalement ce qu'allait faire le tueur. Bon. Le spectateur veut quand même en savoir un peu plus, mais l'explication sera différée, c'est-à-dire, on l'entend assez cette chanson, hein, depuis que, voilà, donc l'explication sera retardée, pour l'instant ça l'angoisse. Ce qu'on comprend, c'est qu'elle est angoissée par cette comptine. Et on voit aussi qu'elle porte quelque chose de lourd. Et que la balustrade, enfin, est en pente, et elle semble, cette force visuelle diagonale, souligner l'effort corporel vers le bas. C'est-à-dire que les forces compositionnelles sont mises en jeu. On aurait pu mettre la caméra face pour avoir une horizontale. Elle a été mise de trapèze pour qu'il y ait une force descendante qui souligne l'effort du corps vers le bas. Et elle va disparaître dans un hors-champ d'interposition. Petit commentaire en aparté. Elle disparaît, mais elle disparaît perceptivement, mais elle ne disparaît pas de la mémoire. C'est-à-dire que nous la maintenons à l'état de trace très forte à cause de son geste vocal. Elle est toujours là. Et puis... Vous voyez ce dessous, un peu opaque et mystérieux. Il y a toute une masse opaque et peu éclairée qui reste dans le cadre comme ça, comme pour souligner quelque chose qu'on ne sait pas. Là, je brode peut-être un peu. Vous m'excusez, je préfère faire de la surinterprétation que de la sous-interprétation. Donc, je vais peut-être en rajouter un peu trop. Donc elle disparaît. Les enfants recommencent comme si de rien n'était. Ils n'ont pas compris pourquoi. Et on a une sortie de champ vide et on a une entrée de champ vide. Ce qui permet de créer un lien indéterminé. On ne sait pas à quelle distance se trouve l'escalier de la cour. On ne sait même pas non plus si c'est écoulé beaucoup de temps, parce qu'il n'y a pas de raccord du tout entre les deux plans. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Et donc ça laisse flotter une indétermination, et tellement indéterminée qu'on ne se pose même pas la question. Et donc ça permet de raccorder ici. Sur le poids s'entend dans les pieds. L'entrée de champ, le soupir. C'est une femme enceinte. J'ai l'impression, hein, quand on la voit de profil, non ? Je ne sais pas. On m'a dit ça, hein. C'est des dames qui m'ont dit ça dans des analyses de films. Alors je répète, on m'a dit. Ici, donc, on a accompagné cette personne qui vient livrer du linge, propre ou sale, on ne sait pas. Affordance inconnue. C'est du linge, à cause des épingles. C'est pas du plomb ou des plumes, non, c'est du linge. Et au moment précis où la porte s'ouvre, la caméra s'avance en travelling. On va passer de pôle situation à pôle personnage par simplement effet de synchro. Hop, on focalise sur un Beckman parce que la porte s'ouvre, la caméra s'avance. Synchronisation de deux idées. Donc, ici, explication retardée.
Puff, dich mal kannst du den Jörn verbieten, eine verdammte Mörderlied zu singen. Den ganzen Tag brüllen sie denen in den Ohren. Als ob man nicht schon genug von dem Mörder zu hören kriegte.
Limite didactique, hein, presque appuyée, mais ça nous permet de comprendre.
Solange man sie singen wird,
Axe 180 degrés. Et cette fois-ci, on passe en facial. C'est elle qui est face maintenant, parce que tout à l'heure, on avait Madame Beckman face et la livreuse de linge de profil, et cette fois-ci, elle est face. On va la suivre en panneau, c'est-à-dire que le discours du plan, c'est elle, le personnage principal. Suivre en panneau, évidemment, vous le savez, c'est donner de l'importance. C'est là que ça se passe. On est à l'épicentre de l'action. Madame Beckman, personnage principal, va passer en contexte maintenant, simplement par... Voilà, elle s'éloigne et du coup, on a le contexte. À l'intérieur du plan, on a le soulignement d'Agneau et où habite-t-elle ? Que fait-elle ? Que fait-elle ? Eh bien, elle lave du linge.